Merci Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le 7 juin 2015, j'ai exhorté pour la toute première fois à la cellule Narcisse de Saron. Le 11 mai 2025, je prêche pour la première fois au culte dominical de la Bonne Matadi. Entre ma première exhortation et ma première prédication au culte de la Bonne Matadi, il s'est passé presque 10 ans. Dieu est capable. Dieu est capable de prendre un homme qui a la grâce de Dieu dans l'anonymat pour le présenter en public. Dieu est capable de prendre une personne dans l'anonymat pour le présenter en public. Toi qui travailles dans l'anonymat, sois sérieux. Toi qui travailles dans l'anonymat, sois seulement sérieux. Fais les choses bien. Même si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Et puisque Dieu te voit, il t'amènera là où il faut t'amener. Il t'amènera dans ta destinée. Tu atteindras ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi je dis merci à Dieu pour cette grâce, opportunité qu'il nous accorde ce matin de pouvoir encore nous tenir au devant de son peuple. Quel tremblement, un culte dominical. C'est tellement solennel, on ne sait quoi dire. Que Dieu nous fasse grâce. J'ai dit également merci à notre frère, le pasteur Maurice, qui a permis que nous puissions aujourd'hui parler. Cet homme par qui Dieu m'a fait grâce. J'ai connu le Seigneur en 2011, par ses prédications, par ses exhortations. Je n'avais pas la forme que je peux avoir aujourd'hui. Je n'étais pas marié, je n'avais pas des enfants. Je n'avais rien. Mais la somme de ses enseignements, de ses exhortations, de ses encouragements, a fait que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui. Si ce Dieu-là m'a transformé, ce Dieu-là écoutera également ses prières. Que Dieu vous exauce. Je prie Dieu que Dieu vous exauce. Alléluia. Je dis également merci à toute l'Assemblée pour votre présence. Je nous invite à lire la parole de Dieu dans Exode 33. Nous sommes dans notre passage annuel, nous sommes dans Exode 33, nous lirons premièrement du verset 1 au verset 3e et nous lirons ensuite du verset 12 au verset 14e, 12e à 14e. Exode 33, 1 à 3 et 12 à 14. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. » Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Éthiens, les Phérésiens, et les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Car tu es un peuple rebelle, dans d'autres versions. Au verset 12, la Bible nous dit, c'était Dieu qui était en train de parler à Moïse, maintenant c'est Moïse qui est en train de parler. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Amen. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je m'étais posé la question déjà d'emblée, lorsque j'étais en train de lire ce passage, je m'étais dit, si alors Moïse n'avait pas parlé à Dieu, quel sera le sort de son peuple et de lui-même Moïse? Si jamais Moïse n'avait pas parlé à Dieu, parce que la décision était déjà prise. Dieu avait déjà pris la décision que je ne marcherai pas avec vous. Maintenant, si Moïse n'avait pas parlé, bien-aimé, celui qui a trouvé grâce est capable de changer de position de Dieu. Dieu peut prendre une position, Dieu peut prendre une décision, mais puisque tu as trouvé grâce et tu parles au Seigneur, Dieu est capable de changer sa décision. Alors quand tu es devant le Seigneur, peu importe ce qu'il t'avait dit, parle-lui. Parle-lui selon ta convenance, parle-lui selon ton besoin. Il va se faire ce que tu as demandé, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. La Bible nous fait déjà voir que Moïse n'était pas... Non, la grâce, lorsque la Bible dit, tu as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est une personne. Une seule personne. La Bible n'a pas dit, l'Éternel n'a pas dit que tu as trouvé, tout le peuple a trouvé grâce. Il a dit à Moïse seul. À Moïse seul. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce à mes yeux. À une seule personne. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais la grâce qu'une seule personne a trouvée a sauvé tout un peuple. La grâce qu'une seule personne a trouvée a pu sauver tout un peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu es capable, tu es la seule personne dans ta famille à avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu es capable d'épargner toute ta famille du fléau, de la condamnation, et tu es capable de sauver toute ta famille. Tu es capable de sauver toute ta famille. Lorsque tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, bien aimé, tu deviens un sauveur de ta famille. Tu deviens un sauveur de ta famille. La grâce... Au Nouveau Testament, non, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, la grâce est individuelle. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, la grâce est individuelle. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la grâce est collective. Jésus-Christ a ouvert la possibilité à toute personne de pouvoir le rencontrer. Jésus-Christ a ouvert la possibilité. C'est pourquoi dans Exode 44, bien aimé, la Bible nous dit que la porte du sanctuaire était fermée. Personne ne pouvait y entrer. Personne. Parce que l'Éternel était entré. Personne ne pouvait accéder au sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire peut être représenté comme tout ce que l'homme peut avoir besoin sur la terre. Le sanctuaire, c'est la présence de Dieu. Le sanctuaire, c'est le ciel. C'est le lieu où réside la présence de Dieu. Personne ne pouvait entrer. Nous sommes impurs pour pouvoir accéder à la présence de Dieu. Je l'ai dit tout haut. Nous sommes impurs pour pouvoir accéder à la présence de Dieu. À l'exception du prince. À l'exception du prince. Car dans Exode 44:2, la Bible dit, c'est le prince qui entrera et qui s'assiera. La Bible dit que c'est le prince. Et si nous pouvons accéder dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous devons composer avec le prince. Le prince, c'est Jésus. C'est lui qui compose, qui est en contact avec le Seigneur Jésus. Bien aimé, il a la possibilité d'ouvrir les portes, de voir les portes s'ouvrir. Il y aura des portes qui vont se laisser ouvertes à cause du fait que tu es le porteur de Jésus. Ainsi, le thème que je nous propose ce matin, c'est la grâce divine pour le repos. La grâce divine pour le repos. Il est très important de savoir que la disponibilité de la grâce de Dieu dans nos vies a une finalité. Il est très important que nous devons savoir, que nous le sachions, que la grâce de Dieu dans notre vie, la disponibilité de la grâce de Dieu dans notre vie a une finalité. Posez-vous la question lorsque tu es visité. Posons-nous la question lorsque nous sommes visités. Lorsque Dieu nous voit, lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Lorsque Dieu t'accorde les hautes fonctions dans la société, posons-nous la question, pour quelle raison, quelle est la finalité que Dieu poursuit lorsqu'il nous accorde la grâce? Lorsqu'il nous donne la possibilité, alors que je n'avais rien, je ne faisais absolument rien, je n'avais aucune influence dans notre société, je n'avais pas la maternité, je n'avais pas d'enfant, je n'étais pas marié, tout ça. Et Dieu vient, nous venons d'être visités. Dieu me fait grâce d'obtenir ce que j'avais besoin. Posons-nous la question. Il ne faut pas il ne faut pas seulement jouir de ce que Dieu t'a donné, mais pose-toi la question, pourquoi Dieu m'a-t-il donné cela? Pourquoi Dieu m'a-t-il donné la maternité? Pourquoi Dieu m'a-t-il donné le mariage? Pourquoi Dieu m'a-t-il donné le travail, la stabilité? Pourquoi Dieu m'a-t-il donné l'élévation? Pourquoi Dieu m'a-t-il donné? La disponibilité de la grâce de Dieu dans nos vies a pour finalité. Et cette finalité, c'est quoi? C'est notre repos. C'est notre repos. Car Dieu ne nous fait pas grâce pour nous perdre. Dieu ne nous fait pas grâce pour nous perdre. Il ne nous accorde pas ce que nous avons besoin, ce que nous avons tant demandé. Il ne nous les accorde pas pour nous perdre. Malheureusement, comme les enfants d'Israël, ils ont vu la grâce de Dieu. Ils sont sortis de la terre promise. L'Éternel a dit à Moïse, « Va, j'ai vu la souffrance qui est faite pousser les oppresseurs, mes enfants. Je suis descendu. Va auprès de Pharaon pour délivrer mon peuple. Et tu vas le faire monter au pays où coule le miel. » Le Seigneur a dit à Moïse, « Tu sors de l'Égypte pour la terre promise. » C'était ça l'objectif. C'était ça la finalité. La sortie des enfants d'Israël, c'était pour atteindre la terre promise. Mais entre l'Égypte et la terre promise, au milieu, il y a le désert. Au milieu, il y a le désert. Il fallait que le peuple de Dieu puisse traverser le désert afin d'atteindre leur repos. Il fallait traverser le désert. Et dans le désert, ils ont été visités. Dans le désert, ils ont vu la manne, ils ont eu la manne. Dans le désert, ils ont eu tout ce qu'ils avaient besoin. Ils ont vécu l'expérience des 12 palmiers. Ils ont vécu l'expérience de boire au rocher par le miracle. Ils ont été secourus par Dieu. Mais malheureusement, alors qu'ils venaient d'être délivrés par le Seigneur, ils ont vu la grâce du Seigneur. Malheureusement, en chemin, la génération qui était sortie de la terre promise, de l'Égypte, n'est pas celle qui était arrivée à la terre promise. Malheureusement. Et c'est le cas de plusieurs enfants de Dieu. Dieu t'a délivré. La délivrance de Dieu. Le fait que nous puissions croire au Seigneur Jésus-Christ. Le fait que Dieu puisse nous sauver ne nous épargne pas de la possibilité de rester dans le désert. Ne nous épargne pas la possibilité de rester dans le désert. Ainsi, ce que Dieu te donne ne peut pas être un moyen pour toi de mourir. Dieu te donne l'argent. Dieu te met dans la stabilité. Dieu t'accorde ce que tu avais besoin. Tu avais besoin de la stabilité. Tu as demandé à Dieu. Tu as prié tellement. J'ai besoin d'être visité par le Seigneur. Tu as prié. J'ai besoin du travail. Tu as prié. J'ai besoin de la stabilité. Tu as prié. J'ai besoin de l'élévation. J'ai besoin de l'ascension. Dieu te l'a accordé. Mais ça devient un appât, une opportunité pour se vautrer dans l'impudicité, pour se vautrer dans l'ivrognerie, pour se vautrer dans les choses qui n'honorent pas Dieu. La disponibilité de la grâce de Dieu a pour finalité le repos. A pour finalité le repos. Ainsi, nous nous sommes posé la question pour comprendre notre thème de ce matin. Une double question, à savoir, quelle est pour l'Éternel la cause du refus d'accompagner son peuple? Parce que Dieu a promis à son peuple, il dit à Moïse, va, pars de ce pays pour faire monter mon peuple au pays où coule le lait et le miel. Mais je ne serai pas avec vous. On s'est posé la question, quelle est alors la cause du refus d'accompagner son peuple? Pourtant, c'est lui-même qui l'a fait sortir du pays d'Égypte. Et la deuxième que nous sommes posés également, en quoi consiste à trouver grâce pour Moïse? En quoi consiste? Quand Moïse dit, j'ai trouvé grâce, cela consiste en quoi? Nous allons répondre par ces trois points. Premièrement, nous allons voir la raison du refus d'accompagner les peuples. La raison du refus d'accompagner les peuples. Et deuxièmement, nous voyons le double degré de la grâce divine pour entrer dans le repos. Pour entrer dans le repos, nous avons besoin du double degré de la grâce. Et en troisième lieu, nous allons terminer par la problématique de la préoccupation de Moïse sur l'identité de l'accompagnateur. Notre premier point que nous voulons aborder maintenant, la raison du refus d'accompagner son peuple. Pour quelle raison Dieu a refusé d'accompagner son peuple? Pour trouver cette raison, lisons Exode 32, le verset 7. La Bible nous dit dans Exode 32, le verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Nous trouvons cette ultime raison du refus d'accompagner son peuple dans Exode 32, 7. Ça dit la corruption. Comprenons la corruption par définition comme étant l'action de corrompre, de détériorer, de faire perdre l'essentiel, de détourner de sa fin première l'action de corrompre, de détériorer, de faire perdre l'essentiel, de détourner de sa fin première. C'est la dernière partie qui m'a intéressé dans le cadre de notre message. Le fait de détourner de sa fin première. La fin ici, ce n'est pas la famine. La fin, c'est le but, l'objectif. Écoutez, se détourner de sa fin première doit être compris comme se détourner de son but ou de son objectif initial. Lorsque l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël de la terre promise, nous avons deux camps. Nous avons premièrement l'Éternel qui constitue un camp et les enfants d'Israël qui constituent un deuxième camp. Lorsque l'Éternel a fait sortir le peuple d'Israël, les deux parties s'étaient convenues en se fixant des buts et des objectifs. Le but de Dieu, dans Exode 3:8, il dit « Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Phéréziens, les Amoréens, les Éviens et les Jébusiens. » Ça, c'est la part de Dieu. C'est l'engagement que Dieu s'est mis, que le Seigneur a pris pour pouvoir honorer sa responsabilité. C'est l'engagement de Dieu, c'est la part de l'engagement de Dieu. Tandis que pour Israël, le peuple de Dieu, celui-ci a pris l'engagement, selon Exode 19, 6 et 7, de faire tout ce que l'Éternel a dit. Lorsque Dieu leur avait dit que je ferai de vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Donc d'une part, les enfants d'Israël ont accepté. Il dit, nous ferons ce que vous avez dit. Ils ont dit, ils se sont engagés de ne faire que ce que Dieu leur avait dit. C'est-à-dire d'être sacrificateurs. En d'autres termes, on ne va que sacrifier pour toi. D'autre part, d'une part, c'est l'Éternel qui dit, je vous amènerai jusqu'à la terre promise. D'autre part, c'est Israël qui s'est engagé. Nous serons les sacrificateurs de l'Éternel. Ils ont accepté cela. Écoutez. Lorsqu'on s'engage avec Dieu, nous devons lui être loyal. Lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, nous devons être loyal à Dieu. Nous devons être loyal. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu s'engagent avec le Seigneur. Ils prient lorsqu'ils demandent à Dieu. Ils ont besoin de quelque chose. J'ai besoin que tu me donnes ça. J'ai besoin d'obtenir ça. J'ai besoin d'avoir ça. J'ai besoin d'avoir ça. Quand tu m'auras donné cela, je ferai ceci. Quand tu m'auras donné cela, je te servirai encore. Quand tu m'auras donné cela, je te servirai encore. Je me consacrerai encore en toi. Mais lorsque Dieu lui donne, bien-aimé, malheureusement, il devient déloyal vis-à-vis de Dieu. Il viole son engagement. C'est le cas de plusieurs enfants de Dieu. Dieu nous accorde, puisque nous avons demandé, et nous nous sommes engagés de faire quelque chose pour le Seigneur, mais lorsque Dieu nous visite, malheureusement, nous sommes les premiers à violer notre engagement. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Les enfants d'Israël ont accepté, ils ont pris l'engagement que nous allons te servir, nous n'allons que sacrifier nos sacrifices à toi. Tu es le seul qui obtiendra notre sacrifice. Nous ne serons que tes sacrificateurs. On ne va pas sacrifier à un autre Dieu. Nous serons fidèles à toi en d'autres termes. Mais malheureusement, lorsqu'ils ont été visités, malheureusement, ils ont oublié. N'oublions pas, bien-aimés. C'est que Dieu, notre engagement pour le Seigneur, bien-aimés, restons loyaux vis-à-vis de Dieu. Restons loyaux lorsque nous nous engageons à Dieu. La Bible dit que ton oui reste oui. Que ton oui reste oui. Je me suis engagé. J'ai pris la résolution de te servir, bien-aimé. Peu importe l'élévation que Dieu peut t'accorder, que cela ne te pousse pas à devenir déloyal. C'est une année de grâce. Dieu nous accorde la grâce. Chacun de nous aura sa grâce. Mais lorsque tu auras été visité, n'oublie pas le Seigneur. Lorsque tu auras été visité, n'oublie pas Dieu. Ne pousse pas des raisons. Ne deviens pas un dimanchard seulement. Alors que quand tu ne travailles pas, tu étais chaque jour là. Quand tu ne travailles pas, chaque jour à l'intercession. Le vendredi, chaque mercredi à l'église, chaque mardi à l'église, chaque vendredi à l'église, chaque dimanche à l'église. Mais depuis que tu as été visité, tu as des raisons. Depuis que tu as été visité, tu as des raisons. Difficile pour que tu sois à l'église. Bien aimé, vous savez, si on reste fidèle à notre engagement, Dieu nous a déjà visités. On reste fidèle, Dieu va encore augmenter. Dieu va encore augmenter. Pour tout celui qui sera fidèle à Dieu, malgré tout ce que Dieu va te donner, tu restes fidèle à Dieu, Dieu va encore augmenter. Tu veux être encore visité, parce qu'il y a possibilité de trouver grâce et de trouver grâce encore. De trouver grâce encore. Si tu as reçu de la part de Dieu, reste fidèle à Dieu. Si tu es visité de la part de Dieu, reste fidèle à Dieu. Si tu as reçu la maternité alors que tu étais stérile, reste fidèle à Dieu. Si tu as reçu le travail alors que tu étais chômeur, reste fidèle à Dieu. Dieu va encore augmenter. N'oublie pas, après avoir trouvé du travail, tu auras besoin de l'ascension professionnelle. Après avoir trouvé les enfants, n'oublie pas que tu auras besoin encore de l'éducation des enfants. Tu auras encore besoin d'avoir l'argent pour pouvoir élever ses enfants. Tu auras encore besoin de Dieu. Ne crois pas que lorsque tu as obtenu, c'est fini. C'est la finalité. Bien aimé, la bénédiction de Dieu que Dieu nous fait voir, ce n'est pas la finalité. La finalité de Dieu, c'est ce qu'il te donne pour t'amener au ciel. Ne reste pas au désert. C'est pour la terre promise. Lorsque Dieu t'accorde, il te donne un moyen de transport pour que tu arrives jusqu'à ta destinée. Bien aimé, le travail n'est pas la destinée. Le travail n'est pas ta destinée. Les enfants n'est pas la destinée. La destinée, c'est le ciel. La destinée, c'est le ciel. Ne te limite pas à ce niveau. La destinée, c'est le ciel. Ne te limite pas à ce niveau. Dieu te visite. Sois fidèle, il te visitera encore. Sois fidèle, il te visitera encore. Jusqu'à ce que tu atteindras le ciel. Ne reste pas dans le désert. Alléluia. Heureusement pour les enfants d'Israël, il y a eu deux personnes. Gédéon et Josué. Ce sont ces deux personnes. Plutôt, Josué et Caleb. Josué et Caleb. Ce sont ces deux frères qui ont quitté Jérusalem, qui ont quitté Égypte et ont atteint la terre promise. Vous savez pourquoi? À cause de la fidélité. Lorsqu'on reste fidèle à Dieu, il va t'amener promptement jusqu'à atteindre ta destinée. Alléluia. Entre conjoints, n'en parlons même pas. Entre conjoints, n'en parlons pas. Nous sommes prêts à violer notre engagement. Un homme marié, alors qu'il n'avait pas d'enfant, alors qu'il n'avait pas les moyens, marié, malgré cela, tu n'arrives pas à supporter un peu de temps pendant lequel ton conjoint n'est pas là. Te voilà, te vautré dans l'impudicité. Je ne parle pas qu'à vous, je me parle également à moi-même. Te vautré dans l'impudicité, parce que nous ne voulons pas patienter pendant un moment. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qui a été à la base? C'est la corruption. Cette corruption, pourquoi? Parce que Moïse a pris du temps à la montagne. Moïse a pris du temps à la montagne. Moïse qui est parti à la montagne, je vais me redire à quelqu'un, Moïse qui est parti à la montagne n'est pas parti pour des bons. Moïse qui est parti à la montagne est appelé à descendre. Moïse qui est parti à la montagne est appelé à descendre. Il ne te dira pas quand est-ce qu'il descendra, mais il descendra quand même. Il finira par descendre. La promesse que tu attends, bien aimé, attends-la, car elle s'accomplira. Attends-la, car elle s'accomplira. Bien aimé, Moïse à la montagne finira par descendre. Moïse à la montagne est appelé à descendre. La promesse que tu attends, même si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est certain qu'elle va s'accomplir. Le temps que prenne Moïse ne veut pas dire qu'il ne descendra plus. Vous savez ce qui a manqué aux enfants d'Israël? C'était le manque de patience. Celui qui attend la promesse de Dieu a besoin de produire Galates 5:22. Celui qui attend la promesse de Dieu a besoin de produire Galates 5:22. Les fruits de la patience. Nous avons intérêt que celui qui attend la promesse de Dieu, on n'attend pas la promesse de Dieu, on attend la présence de Dieu, on attend l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la patience. Si vous n'en avez pas, vous pouvez demander à Dieu la patience. Demandons à Dieu, donne-moi la patience, donne-moi la patience, donne-moi la patience. J'attends, alléluia, j'attends, accorde-moi la patience. Dieu est capable de t'accorder la patience pour que tu attendes jusqu'à ce qu'il descendra. Mais de la même manière, le retour de Christ prend du temps. Le retour de Christ prend du temps. Je me rappelle, je suis allé, c'est pour moi faire le suivi ou l'évangélisation. Je suis allé, j'ai dit, Jésus-Christ revient. On me dit, dans 90, il revient. Dans 2020, dans 2010, dans l'an 2000, on dit, il revient. D'ailleurs, en l'an 2000, c'était encore très dur, très fort. En 2010, Jésus-Christ revient. Jésus-Christ, depuis 90, là, il a parlé de son âge par rapport à lui, parce qu'à 90, il avait déjà la possibilité de comprendre les choses. On peut remonter même à 1980. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient. Jésus-Christ est tard à venir. Alors, beaucoup de personnes se sombrent dans l'impatience et ils retournent à ce qu'ils faisaient. Ah, Jésus-Christ ne revient pas. J'aimerais dire à quelqu'un, le Jésus-Christ revient de l'an 2000 n'est pas le même Jésus-Christ revient de 2025. Plus les jours avancent, plus les années passent, bien aimé, nous sommes en train de nous approcher vers le retour du Christ, certain. Le retour imminent du Christ. Nous ne devons pas l'oublier. On ne peut pas se mettre à oublier que Jésus-Christ revient. De toute façon, s'il ne revient pas collectivement, il reviendra individuellement. S'il ne revient pas collectivement, il reviendra individuellement. Il reviendra individuellement. Alors, tu ne sais pas quand est-ce que ça viendra. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Préparons-nous. Pendant ce temps-là, préparons-nous. Dans Ésaïe 54, 1 à 2, le temps que nous sommes en train de patienter. Dans Ésaïe 54, 1 à 2, la Bible nous fait voir cette femme stérile. Nous sommes en train d'être enseignés autour de la stérile, de la femme stérile. Cette femme stérile, la Bible dit, c'est car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Seront au plus tard, au futur. Seront plus nombreux. Les fils de la délaissée seront plus nombreux. C'est la promesse de Dieu. Ils seront plus nombreux. Bien aimé, ta bénédiction sera grande. Ta bénédiction sera grande. Quoique ce n'est pas encore arrivé, quoique la promesse de Dieu n'est pas encore accomplie, elle sera grande. Elle sera grande. Mais pendant que ça tarde à venir, écoutez la suite, pendant que ça tarde à venir, en attendant, les fils nombreux, élargis l'espace de ta tente. Pendant que tu attends, élargis l'espace de ta tente. C'est l'attitude que nous devons avoir. Pendant que nous sommes en train de patienter, pendant que nous sommes en train d'attendre, c'est pour nous de prendre les dispositions utiles pour pouvoir nous préparer pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Car Jésus-Christ ne ment pas. Il reviendra. Mais pendant ce temps, préparons-nous. Jésus-Christ ne ment pas. Il fera. Pendant ce temps, prépare-toi. Prépare-toi. Tu veux avoir la maternité. Pendant ce temps, tu n'as pas encore la maternité. Comment s'acheter d'affaires déjà la lettre? Les gens vont s'étonner. Commence déjà à faire la lettre. Tu n'as pas encore des enfants. Commence à faire déjà la lettre. Il n'y a pas encore un signe. Non, ma femme a encore vu. Oui. Pendant qu'il a encore vu. Mais toi, fais déjà la lettre. C'est un signe. C'est une marque de foi. Je me rappelle quand nous étions en train d'attendre la maternité. Ça ne venait pas. Je m'étonnais. Ma femme était en train de faire la lettre. Elle sort, elle revient avec des histoires. Mais pendant ce temps-là, elle n'a pas encore la maternité. Pendant ce temps-là, elle n'est pas encore en retard. Mais elle est déjà en train de poser les actes de foi. Pendant que nous sommes en train d'attendre, bien-aimé, prends des dispositions. Pendant que nous attendons, prenons des dispositions. Prenons des dispositions. Ta manière de préparer l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ta manière de préparer l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans ta vie, pendant que ça tarde à arriver, peut déterminer la dimension de ce que Dieu te donnera. Peut déterminer la dimension de ce que Dieu te donnera. Nous passons à notre deuxième point. Le double degré de la grâce divine pour entrer dans le repos. Le double degré de la grâce divine. Au verset 1 à 3 de Exode 33, il nous est dépeint cette image, la manière dont les choses se sont déroulées. C'est le Seigneur qui dit à Moïse, « Va !» Pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai tous les pays qu'on a cités. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas avec toi. Ce passage que nous venons de lire nous montre la fidélité de Dieu. Nous démontre la fidélité de Dieu. Ce peuple qui venait à peine de se corrompre, pour qui, malgré cette corruption, Dieu dit, va, entre en possession de ce pays, mais moi je ne monterai pas avec toi. Bien-aimé, nous voyons la fidélité de Dieu. Remarquez, malgré cette scène malheureuse que nous ne pouvons pas encourager, car les conséquences sont très dangereuses, l'Éternel demeure fidèle en assurant à Moïse qu'il va posséder Canaan avec ses peuples. L'Éternel demeure fidèle. Il reste fidèle. Il reste fidèle. Je ne peux pas encourager le péché. Je ne peux pas encourager le péché. Mais je ne peux pas non plus aussi parler de la fidélité de Dieu. Je ne peux pas encourager le péché, mais je ne peux pas non plus aussi parler de la fidélité de Dieu. Je ne peux pas non plus ignorer la fidélité de Dieu. Je ne peux pas non plus ignorer la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu n'est pas sa faiblesse. Dieu dit, monte, malgré ce que le peuple a fait, mais je lui donnerai quand même ce que j'ai promis. Malgré ce que le peuple a fait,
À un certain niveau, j'étais en train de me dire, même le péché ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir sa promesse. Parfois, c'est la Bible qui me le dit. Malgré ce que le peuple a fait, mais Dieu dit, vous entrerez à la terre promise, en d'autres termes. Malgré cela, ça prouve la fidélité de Dieu. Notre Dieu est tellement fidèle. Notre Dieu est tellement fidèle. Ne doute pas de la fidélité de Dieu. Si tu as un péché, confesse. Ne doute pas de la fidélité de Dieu. Si tu as un péché, confesse. Ne doute pas de la fidélité de Dieu. Car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mais cette fidélité de Dieu n'est pas sa faiblesse. La fidélité de Dieu n'est pas sa faiblesse. Que la fidélité de Dieu ne soit pas une occasion de nous comporter de n'importe quelle manière. Que la fidélité de Dieu ne soit pas une opportunité pour nous, pour que nous puissions nous comporter de n'importe quelle manière. Parce que nous savons que Dieu fera. Bien aimé, écoutez, je vais dire à quelqu'un, le peuple qui était sorti, la génération qui était sortie de l'Égypte, n'est pas la même génération qui est entrée à la terre promise. Bien aimé, Dieu n'a-t-il pas accompli sa promesse? Oui, il a accompli sa promesse. Dieu a accompli sa promesse, mais la génération n'a pas pu posséder. Dieu est fidèle. Il va accomplir sa promesse, mais tu risques de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu après toi. Toi, tu passes, l'accomplissement de la promesse de Dieu vient de s'accomplir. La promesse de Dieu vient de s'accomplir. Toi, tu passes, mais l'accomplissement de Dieu se manifeste. Cependant, notez ceci. Si Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse, l'homme est tenu de rester dans les limites de Dieu afin de recevoir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu est fidèle, mais restons également dans les limites de Dieu. En d'autres termes, Dieu risque d'accomplir sa promesse à ton absence pour avoir été désobéissant. Dans Hébreux 4:1, la Bible nous dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Attention, que la fidélité de Dieu ne puisse pas nous amener à faire de n'importe quoi, car nous risquerons de venir, nous entendons, si on peut entendre, il est possible, il est impossible d'ailleurs, parce que là vous serez déjà en enfer, il sera impossible en enfer, mais si tu peux voir comme cet homme riche qui pouvait voir, il verra qu'effectivement Dieu a accompli sa promesse, Dieu restait fidèle, mais toi, tu as été détaché de la promesse de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Recevoir la promesse de Dieu est le premier degré de la faveur divine. Lorsque notre frère avait parlé de la grâce et des grâces, j'avais compris qu'il y a la grâce initiale pour notre salut. C'est le premier degré de la grâce divine. La grâce initiale. L'homme qui a besoin de la grâce initiale a aussi besoin de la grâce de marche. Pendant que nous sommes en train de marcher, parce que lorsque Dieu nous fait grâce, il ne nous amène pas directement au ciel. Lorsque Dieu a pris les enfants d'Israël en Égypte, il ne l'a pas directement amené dans la terre promise. Mais il fallait qu'il traverse le désert. Pendant le désert, bien aimé, si nous avions eu besoin de la grâce initiale, de la grâce du premier degré, pendant notre marche, nous avons besoin de la grâce du second degré. Qui est la grâce de marche? La grâce du second degré. Ainsi, pour entrer en repos, il te faut la grâce du premier degré et la grâce du second degré. Il te faut la grâce initiale et la grâce de marche. De temps en temps, Dieu viendra te faire du bien. Mais si tu veux te limiter seulement à la grâce initiale, bien aimé, tu n'entreras pas en repos, car tu auras besoin de marcher encore sur la terre. Aussi longtemps que nous marcherons sur la terre, nous aurons besoin de la grâce du second degré. Trouver grâce aux yeux de Dieu, du verset 12, est une grâce du premier degré, tandis que celle du verset 13, qui dit « Et je trouverai encore grâce à tes yeux », constitue celle du second degré. Dieu est fidèle dans sa promesse. Mais pour que l'homme vive cette fidélité en obtenant l'accomplissement de cette promesse, il lui faut trouver le double degré de la grâce divine. Est-ce qu'on peut dire à mon frère qui est à mes côtés, bénéficie des doubles degrés de la grâce divine. Ne te limite pas au premier degré de la grâce divine. Ne te limite pas au premier degré de la grâce divine. Car le premier degré de la grâce divine, c'est le salut. Le second degré de la grâce divine, c'est l'assistance à tout moment que j'ai besoin pendant ma marche. Que Dieu soit béni. Dieu est tellement fidèle qu'il ne veut pas que ce qu'il a déjà investi en toi, il ne veut pas que ce qu'il a déjà investi en toi puisse se perdre. Il a tellement investi. Jésus-Christ est mort premièrement pour que nous ayons la vie. C'est un grand investissement. Voilà pourquoi il a encore rendu disponible sa présence à tout moment, son assistance à tout moment, pour qu'à chaque fois que tu auras besoin de lui, qu'il intervienne. Il ne veut pas gaspiller la grâce initiale. Il met à ta disposition la grâce, le deuxième degré. Jésus-Christ n'est pas un gaspilleur. Il a tellement investi. Il a tellement investi. Le troisième point, pour finir, la problématique de la préoccupation de Moïse sur l'identité de l'accompagnateur. Sur l'identité de l'accompagnateur. Voyez ce que Moïse est en train de poser la question, est en train de dire à Dieu. Il dit, la Bible dit, Moïse dit au verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Moïse, alors que Dieu lui a déjà dit, va, pars, fais posséder ce peuple, la terre promise. Dieu lui a déjà dit, il a déjà la certitude, parce qu'il sait que Dieu ne ment pas. Il a déjà la certitude. Mais Moïse continue toujours à poser sa préoccupation, à poser son problème. Moïse continue toujours à poser son problème. Et c'est par là que j'ai compris que le problème de Moïse, ce n'est pas de posséder Canaan seulement. Le problème de Moïse n'était pas de posséder Canaan seulement. Car il savait pertinemment bien que quand Dieu promet, il les réalisera coûte que coûte. Lui-même, il avait affirmé que de toutes les promesses que Dieu nous a faites, il a toutes accomplies. Il sait que Dieu ne ment pas. Il sait que Dieu est fidèle. Il sait que Dieu ne ment pas. Mais pourquoi il continue? Alors qu'il a déjà reçu la parole de Dieu, lui disant que tu feras entrer ce peuple dans la terre promise. Tu feras entrer ce peuple. Le problème de Moïse, ce n'est pas de posséder Cana seulement. Car il savait pertinemment bien que quand Dieu promet, il les réalisera coûte que coûte. Mais son problème était plutôt au niveau de qui sera avec moi? Qui sera avec moi? Ce n'est pas un problème que je possède Canaan, mais qui m'accompagnera? Ce n'est pas un problème que j'obtienne ce que je vais obtenir, mais qui m'accompagnera? En quelque sorte, il est en train de se poser la question. Je veux cette chose, mais je veux savoir la source, l'origine de cette chose que je vais obtenir. Bien-aimé, obtenir une chose, obtenir un exaucement, obtenir ce que nous avons besoin est une chose. Mais l'origine au travers de laquelle cette chose arrive en est une autre. Bien-aimé, ce qui est important, ce n'est pas la chose. Ce qui est important, c'est l'origine. Ce qui est important, ce n'est pas le travail. Mais ce qui est important, c'est l'origine de ce travail. Ce qui est important, ce n'est pas le mariage. Ce qui est important, c'est plutôt l'origine de ce mariage. Ce qui est important, c'est l'origine. Moïse pouvait dire à Dieu, je peux tout obtenir, mais qui me le donnera? Je peux tout obtenir, mais qui me le donnera? Je n'obtiendrai pas ce qui ne vient pas de toi. En quelque sorte, ça peut dire ça. Je n'obtiens pas tout ce qui ne vient pas de toi. Je n'obtiens pas. Bien-aimé, ça doit être la décision des enfants de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu, je ne peux pas l'obtenir. Ce qui ne vient pas de Dieu, je ne peux pas l'obtenir. Je ne peux pas être là pour chercher, coûte que coûte, à obtenir quelque chose. Mais l'origine est douteuse. L'origine est déjà biaisée. L'origine biaisée. Ce qui est important, c'est l'origine. Bien-aimés, restons au pied de Dieu jusqu'à ce que j'obtiendrai ce que Dieu m'a promis. Mais me vautrer dans les choses qui n'honorent pas Dieu pour obtenir, non. Mais vautrer dans ce qui n'honore pas Dieu pour obtenir, non. Je ne peux pas satisfaire mon besoin par quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Je ne peux pas couvrir mon besoin par quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Nous sommes dans l'année de grâce. Attends jusqu'à ce que la grâce opérera son miracle. Mais ne cherche pas à couvrir ton besoin. Tout le monde verra que non, Dieu lui a fait grâce. Mais toi-même, tu sauras que l'origine est biaisée. Que l'origine est biaisée. Dieu ne nous juge pas parce que nous avons obtenu quelque chose. Mais Dieu nous juge par rapport aux moyens par lesquels cette chose est venue. Dieu ne te jugera pas parce que tu as acheté la voiture. Mais Dieu te jugera parce que, par rapport aux moyens par lesquels tu as pu acheter cette voiture. Dieu ne te jugera pas en fonction de la maternité. Dieu ne te jugera pas en fonction du mariage. Dieu ne te jugera pas en fonction de l'élévation, des grandes fonctions que tu occupes aujourd'hui. Par quels moyens l'as-tu obtenu? Par quels moyens l'as-tu obtenu? Par quels moyens? C'est à ce niveau-là que Dieu jugera. Moïse pouvait dire à Dieu, « Je préfère ta personne que le bien que tu peux me donner. Car si tu es avec moi, quand je manquerai, tu pourras encore me donner. » Alléluia. Si tu es avec moi, quand je manquerai, tu pourras encore me donner. Mais marcher avec quelqu'un que je ne connais pas, non. Je sais que lorsque toi tu donnes, quand je pourrai manquer, c'est toi qui donneras. Je préfère ta personne que le bien que tu peux me donner. Mais si je préfère tes biens seulement à la place de ta personne, et quand je manquerai, je n'aurai personne pour me donner. Je n'aurai personne. Ce que Dieu te donne mérite d'être sécurisé. Ce que Dieu te donne mérite d'être sécurisé. Et la sécurité, c'est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Moïse ne voulait pas que Dieu puisse rester et qu'il possède. Non, 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 non. Je ne peux pas être avec une autre personne que toi-même. Parce que si tu me donnes une autre personne, lorsque ce que tu me donneras sera en danger parce que je serai attaqué, c'est toi qui viendras pour me secourir. Bien-aimé, la présence de Dieu, nous en avons besoin pour la jouissance de ce que Dieu nous donne. Nous avons besoin. Il ne suffit pas que Dieu te donne ce que tu as besoin. Il faudra, au-delà de ce que Dieu t'a donné, qu'il t'accorde la paisible jouissance. La paisible jouissance. Bien-aimé, posséder, c'est une chose. Mais en jouir paisiblement en est une autre. En jouir paisiblement en est une autre. Le problème, c'est au niveau de la jouissance. Moïse était en train de voir la jouissance. Nous voulons posséder la terre promise. Mais comment nous allons jouir de cela si toi tu n'es pas là? Comment nous allons jouir de cela si tu n'es pas là? Ainsi, choisissons la personne qui est le bien que cette personne peut nous donner. Choisissons la personne que c'est que cet homme peut me donner. Je choisirai mon frère, mon pasteur, que c'est qu'il peut me donner. Sa personne est plus importante. Je choisirai ma femme, que c'est qu'elle peut me donner. Parce que sa présence est plus importante. Je choisirai mon frère, que c'est que tu peux me donner. Ce que tu peux me donner peut terminer. Mais toi, aussi longtemps que je resterai avec toi, j'aurai la possibilité d'obtenir encore. J'aurai la possibilité d'obtenir encore. J'aurai la possibilité d'obtenir encore. Parce que ta présence me rassure. J'aurai la possibilité d'obtenir encore. Ainsi, je vais rester avec la personne qu'avec le bien de la personne. Je vais rester avec la personne qu'avec le bien de la personne. Ma femme, n'aimez pas vos maris à cause de bien qu'ils vous donnent. Enfant, n'aimez pas vos parents à cause de bien qu'ils vous donnent. Aimez vos parents qui sont capables de vous donner encore plus. Aimez vos maris qui sont capables de vous donner encore plus. Mais le bien, mettez de côté. Aimez la personne, n'aimez pas le bien. Aimez la personne, n'aimez pas le bien. Aimez Jésus, n'aimez pas ses biens. Alléluia, n'aimez pas seulement ses biens. Aimez Jésus, n'aimez pas seulement ses biens. Aimez Jésus, n'aimez pas seulement ses biens. Car Jésus-Christ est plus important que les biens qu'il peut nous accorder. Jésus-Christ est plus important que les biens qu'il peut nous accorder. Jésus-Christ dans ta vie est plus important que les biens qu'il peut te donner. Oh my God. Jésus-Christ est plus important que les biens qu'il peut me donner. Jésus-Christ est plus important. Alléluia. En outre, je termine. En outre, ce qui revenait au sacrificateur. En outre, ce qui revenait au sacrificateur. Nous sommes dans Lévitique 6, 25 et 26. Ce qui revenait au sacrificateur, dans les sacrifices qu'il fallait offrir, ce qui revenait des droits au sacrificateur, la Bible dit, devait se manger dans les lieux saints. dans la présence de Dieu. Ce que Dieu te donne doit se manger dans la présence de Dieu. Ce que Dieu t'accorde, la grâce que Dieu t'accorde, le bénéfice de la grâce que Dieu t'accorde, doit se manger dans la présence de Dieu. Ne sors pas, tu vas suyer. Ce que Dieu te donne est sacré. Ce que Dieu te donne est sacré. Les enfants que Dieu te donne est sacré. Le travail que Dieu te donne est sacré. Tout ce qui vient de Dieu est sacré. Ne le désacralisez pas, s'il vous plaît. Ne le désacralisez pas, s'il vous plaît. Je ne peux pas me réjouir de bien que Dieu me donne loin de Dieu. Je ne peux pas me réjouir de bien que Dieu me donne loin de Dieu. Le repos. En d'autres termes, Moïse avait compris que le repos n'est pas dans quoi une chose, mais dans qui une personne. Moïse avait compris que le repos n'est pas dans quoi, mais le repos est dans qui. Le repos n'est pas le bien. Tout ce que vous pouvez obtenir, ça ne peut pas vous procurer le repos. Le repos n'est pas le bien, mais le repos c'est une personne. Le repos est une personne. Tu la trouves, tu as ton repos, avant même que tu n'obtiennes. Tu la trouves cette personne, tu as le repos. Tu me trouves, tu as le repos. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Tu me trouves, tu as le repos. Il dit, venez à moi, venez à moi. Tu trouves Jésus, tu as le repos. Tu trouves Jésus, tu as le repos. Je t'en supplie, ne reste pas ce matin, alléluia, à l'église, sans pour autant trouver Jésus. Ne reste pas sans trouver Jésus. Si tu es là, tu n'as pas encore trouvé Jésus. Tu es en train de passer à côté de ton repos. Trouve Jésus, tu as le repos. Le repos, c'est une personne. Jésus-Christ dans la vie nous assure la jouissance paisible de tout ce qu'il peut nous donner. Ainsi, tout ce dont l'homme a besoin se trouve en Jésus. Tout ce dont l'homme a besoin se trouve en Jésus. Tout ce dont l'homme a besoin se trouve en Jésus. Tout ce dont l'homme a besoin se trouve en Jésus. En conclusion, la grâce divine pour le repos nous a conduit à considérer la raison du refus d'accompagner son peuple, les doubles degrés de la grâce divine pour entrer dans le repos, la problématique de la préoccupation de Moïse sur l'identité de l'accompagnateur. La grâce de Dieu consiste non seulement à être sauvé par Dieu, mais aussi à vivre tous les jours de sa vie en présence de Jésus-Christ pour une vie paisible sur la terre en attendant notre repos éternel. Si tu as besoin de la grâce de Dieu pour être exaucé, tu as encore besoin de la grâce de Dieu pour jouir de ce que Dieu t'a donné. Ainsi, la présence de Dieu dans notre vie doit être notre préoccupation première pour assurer la jouissance paisible de tout ce qu'il nous donne. Est-ce qu'on peut les... On peut courber nos têtes dans la prière. Nous allons demander à Dieu. Je ne sais pas qui a été touché, d'une manière ou d'une autre. Mais j'aimerais que celui qui n'a pas encore reçu Jésus, celui qui n'a pas encore trouvé son repos dans sa vie, celui qui n'a pas encore trouvé, peut-être que vous êtes là, vous croyez que le repos que vous avez dans vos biens matériels était le véritable repos. C'était un pseudo-repos. Ce n'est pas le vrai repos. Le repos que Dieu vise pour nous, c'est le repos dans notre âme. C'est le repos, lorsque nous sommes en train de jouir de ce qu'il nous donne, c'est le repos dans notre âme. Je veux que celui qui n'a pas encore rencontré l'homme qu'on appelle le repos, qu'il donne sa vie à Jésus. Qu'il donne sa vie à Jésus. Car il est important, avant de trouver n'importe quoi, de s'intéresser d'abord sur la personne de Jésus. Demandons à Dieu que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je n'avais pas été dans le vrai repos. Et maintenant que j'ai entendu ta voix, j'ai donné ma vie à toi. Je vais nous demander tous de nous lever. Nous allons prier. Seigneur, chacun de nous peut lever sa voix. Par rapport à ce qui les concerne. Peut-être que tu n'étais pas celui qui considérait la personne. Tu considérais plutôt le bien que la personne pouvait te donner. Et j'aimerais que nous puissions prier à Dieu, demander au Seigneur, je veux que tu sois réellement installé dans mon cœur. Je veux rester, considérer d'abord le Seigneur, avant de considérer tout ce que Dieu peut me donner. Je veux considérer d'abord le Seigneur, avant de considérer tout ce que Dieu peut nous donner.